Chapitre 40. Le 20 août 2016, 15h. Des voitures passaient, faisant hurler leurs klaxons tout en se déportant vers le précipice, insultant la propriétaire inconsciente de cette Passat garée sur la moitié de cette route littorale sans visibilité. Clotilde ne les entendait pas. Elle tenait l'enveloppe entre ses doigts, foudroyée. Doucement, elle l'ouvrit. Elle lisait, déchiffrait, avec la lenteur d'un enfant de CP, les mots tracés d'une écriture d'institutrice en retraite. Maclo, merci, merci d'avoir accepté. Merci de t'être tenu sous le chêne. Autrement, je ne sais pas si je t'aurais reconnu. Tu es devenue une très jolie femme. Ta fille aussi, plus belle encore peut-être. Elle me ressemble, je crois. Du moins, elle ressemble à la femme que j'étais. J'aimerais tant te parler. Ce soir c'est possible si tu le peux. À minuit, tiens-toi en bas du sentier qui mène à la Casa di Stella. Tu attendras. Il viendra et il te guidera. Couvre-toi, il fera sans doute un peu froid. Il te mènera à ma chambre noire. Je ne pourrai pas t'en ouvrir la porte, mais peut-être les murs seront-ils assez fins pour que je puisse entendre ta voix. À minuit, à la lueur de Bételgeuse. Je t'embrasse. P. Tout le reste de la journée, Clotilde se força à être gaie. Franck n'avait fait aucune réflexion sur son silence à table le midi, sur cette brusque envie d'aller se rendre sur la tombe de ses parents, sur ses sautes d'humeur, son téléphone portable oublié et sur les messages qu'il aurait pu y lire. L'après-midi se déroula comme un jour de permission en temps de guerre, lentement, sans qu'on le savoure vraiment. Rester à la plage jusqu'à s'y ennuyer, en revenir à pied, étendre des serviettes mouillées, balayer le sable sur la terrasse, éplucher des fruits pour en faire une salade et trouver presque agréable ce temps perdu aux tâches quotidiennes qui d'ordinaire vous prennent la tête. Clotilde se laissa aller à passer une main sur l'épaule de Franck. Elle le trouvait presque attendrissant, agenouillé à lutter contre les colonies de fourmis qui ouvraient chaque jour de nouvelles voies pour atteindre les étagères du petit-déjeuner. À tout ranger, calfeutré, sucre, café, biscuits. À vérifier l'étanchéité des paquets et à resserrer chaque nœud de chaque sachet. Un petit garçon quasi démuni face à la ruse et la persévérance des insectes. Clotilde laissa sa main poser sur l'épaule nue. Il y avait dans son geste un peu de culpabilité, un peu de peur et beaucoup de stratégie. Pas vis-à-vis de Natale, pas à cet instant-là. Vis-à-vis de son rendez-vous de minuit. Il y avait tout cela dans sa voix aussi.
Il faut seulement me laisser un peu de temps, Franck. Je t'expliquerai bientôt. J'ai eu des informations nouvelles.
Elle hésita un peu, trop peut-être, mais Franck lui tournait le dos, accroupi et parlait aux fourmis.
Pas d'histoire de fantôme, Franck, je te rassure. Rien que la vérité. De vieilles photos, des témoignages. La vérité cruelle.
Elle hésita, se baissa et l'embrassa dans le cou. Sur le moment, bizarrement, elle se trouva sincère. Plus qu'avant d'avoir un amant. Franck se retourna, la dévisagea longtemps, comme s'il cherchait à comprendre ses pensées, à observer les colonies de fourmis qui traversaient le cerveau de la folle qu'il avait prise pour femme. Comme s'il se disait que ces idées délirantes, on pouvait aussi les protéger, en les enfermant dans des sachets hermétiquement fermés.
« Comme tu veux, Clo, comme tu veux. »
Était-ce un piège ? Clotilde était perdue dans ses pensées.
Tu me passes la mayonnaise, maman ?
Vers minuit, tiens-toi en bas du sentier qui mène à la Casa di Stella. Tu attendras, il viendra et il te guidera.
Les filles, c'est toujours d'accord pour la voile demain ?
J'aimerais tant te parler. Ce soir c'est possible, si tu le peux. Était-ce un nouveau piège grossier dans lequel elle allait foncer tête baissée ? Une ronde de questions tournait en farandole dans sa tête. Des questions que quelqu'un avait délibérément provoquées, avec ordre et préméditation. Cette première enveloppe dans le bungalow C-29, ces papiers volés, ce chien qui portait le nom du sien dans une autre vie, ce petit déjeuner dressé, ce nouveau courrier posé sur son pare-brise.
Claude, Valou, vous m'écoutez? J'ai réservé le 470 pour la journée. Vous verrez, vous allez adorer. Le vent, le silence et la liberté.
Les confidences de Cervone ne fournissaient aucune réponse à ses questions, même s'il continuait de lui broyer le cœur. Même si le dernier regard de Nicolas la hantait, ce regard qu'elle pouvait maintenant interpréter. Il avait compris qu'il était un assassin, et, dans la même seconde, qu'il allait mourir exécuté. Quelle explication pouvait relier ces deux folies? Le plan de Nicolas pour séduire Maria Tiara et ses lettres de l'au-delà. Une seule, pensait Clotilde. Une seule, plus folle encore. Sa mère, vivante. 23h. Franck, après avoir passé la soirée à vérifier sa boussole, ses cartes marines, ses manuels de parfait petit marin, était parti se coucher. On se levait tôt demain. Depuis presque 6 mois, il avait réservé ce 4,70 pour le 21 août. Franck n'avait rien laissé au hasard. Il s'était documenté, entraîné, et hier encore, une bonne partie de la journée avait révisé. Clotilde, assise, comptait les lignes de son roman avec autant de conviction que les grains d'un sablier, laissant ses pensées s'égarer en observant son mari. Quand on les connaît bien, les aventuriers, au fond, doivent être des hommes assez ennuyeux. Des types méticuleux qui ne laissent la place à aucun hasard, aucun inconnu, aucun imprévu, qu'ils soient escaladeurs, surfeurs ou skippers. Elle observa son mari plier en 4 sa serviette, ranger la balayette, poser délicatement sa casquette. L'inverse n'était pas vrai. Tous les types maniaques ne sont pas des aventuriers. On va se coucher. Franck venait de terminer de cocher sa checklist de marin d'un jour.
J'arrive, je te suis, je lis un peu.
On se lève tôt demain, Claude. Reproche à peine voilée. Clotilde le prit en souriant. Elle s'épatait de son assurance, de son aisance à mentir, au moins à ne pas dire toute la vérité.
Je sais. Demain, tu m'offres une journée de bronzette sur le pont de ton bateau, sans maillot, avec un homme attentionné qui me sert des mojitos glacés.
C'était bien ça le deal quand tu as réservé cet hiver.
Quand je t'ai dit oui. Tu n'as pas oublié, mon chéri.
23h45. Clotilde posa son livre ouvert sur la table de jardin, laissa à sa place la tasse de thé à peine goûtée, comme pour faire croire qu'elle n'était pas loin, qu'elle revenait. Franck ronflait. Doucement, silencieusement, elle s'éloigna dans l'obscurité. Rapidement, alors qu'elle quittait les Euproctes pour suivre le chemin désert sous les oliviers, le silence du camping laissa place au bruit de la nuit. Tous les laids et timides que le soleil effrayait se réveillaient. Mulots, peureux, hiboux espions, crapauds amoureux. Clotilde marcha 10 minutes, à la lueur de la torche de son iPhone, jusqu'à atteindre le point de départ du sentier menant à la Casa di Stella, indiqué par un grand panneau de bois planté sur le petit parking de terre. Elle s'arrêta.
Tu attendras, il viendra et il te guidera. Couvre-toi, il fera sans doute un peu froid.
Elle avait enfilé un pull de coton écru, comme une petite fille obéissante, comme si c'était réellement le fantôme de sa maman qui lui adressait ses recommandations. Ridicule. Il était encore temps de courir, de se déshabiller, de se coller contre Franck, de lui montrer cette lettre, d'aviser. Ridicule. Depuis 6 mois, il avait entouré la date du 21 août sur son agenda. Rien n'aurait pu empêcher son mari d'aller naviguer avec sa famille, pas même ce courrier, pas même qu'elle lui avoue avoir un amant. Loin dans la forêt, un crapaud coassait, un cri plaintif d'amour ou d'agonie. Un amant, repensa Clotilde. La meilleure solution n'était-elle pas d'envoyer un texto à Natale, de tout lui expliquer, de lui demander de tout quitter, de venir la rejoindre, l'accompagner, la protéger? Ridicule. À 7h, son chevalier dormait dans les bras d'une fille de flic qui se couchait tôt, car dès l'aurore, elle se levait pour aller pointer à la clinique de Calvi pendant qu'il réceptionnait des cartons de poissons surgelés. ridicule. Sa vie entière n'était qu'une mascarade. Dans les romans qui osent inventer des histoires aussi surréalistes que la sienne, on s'aperçoit au fil des pages que l'héroïne est folle, qu'elle souffre de schizophrénie, d'un dédoublement de personnalité, que ses courriers qui lui sont adressés, elle les a inventés, elle les écrit elle-même, elle. Elle n'entendit aucun bruit, ne perçut aucune ombre. Simplement, la nuit devant elle lui sembla soudain plus noire, plus profonde, plus intense, sans qu'elle puisse l'expliquer. Les lumières de la baie de Calvi et du phare de la Rivelata avaient subitement disparu. Elles réapparurent d'un coup, alors que les étoiles des yachts sur la Méditerranée s'éteignaient. La nuit noire se déplaçait. En boitant, elle l'entendait maintenant. La masse immense qui masquait les lumières nocturnes se tenait devant elle. Clotilde ne la reconnut que lorsqu'elle braqua sa torche sur son bras mort, sur son cou, son visage. Hagrid. Hagrid fut le nom qui lui vint, malgré elle, même si elle se détesta pour ça. « Orsou ?» murmura-t-elle. Le géant ne lui répondit pas. Il se contenta de tendre son bras valide et de la regarder, avec un air effrayé d'éléphant, agitant sa trompe devant une souris. Puis désigna le sentier. Il alluma une lampe torche qui éclairait 10 mètres plus loin que le téléphone de Clotilde, puis s'engagea le premier sur le chemin, marchant avec une étonnante rapidité malgré sa jambe raide, l'utilisant presque comme une canne articulée. Après quelques minutes, ils quittèrent le sentier balisé qui menait à la Casa di Stella pour s'enfoncer dans le maquis. Les branches molles des genêts et des arbousiers la caressaient dans l'obscurité. L'ascension semblait ne jamais devoir s'arrêter. Pas une fois, Orsou ne prononça un mot. Clotilde avait hésité au début de la montée à le questionner. « Où va-t-on ? Qui nous attend ? Connais-tu ma mère ?» Elle n'avait rien dit, sans doute parce qu'elle savait qu'Orsou ne lui répondrait pas. Et peut-être aussi pour ne pas troubler la solennité du moment, comme s'il fallait que cette marche soit silencieuse pour apprécier pleinement son sens, son but, sa signification profonde, pour qu'une certitude intime s'impose. Celle qui l'attendait était sa maman. « Il te mènera à ma chambre noire. » Qui d'autre aurait pu employer ces mots ? Ils passèrent une petite rivière, puis progressèrent en pente raide dans une garrigue rase. Fréquemment, Orsou se retournait, comme pour vérifier qu'il n'y avait personne derrière eux. Instinctivement, Clotilde faisait de même. Il était impossible de les suivre. Leurs lampes éclairaient leurs pas. Ils surplombaient le sentier sur près d'une centaine de mètres, et il n'était pas possible de progresser dans la nuit noire sans lumière. N'importe quelle lueur autre que la leur, même éloignée, aurait été aussi repérable que l'étoile du berger à la nuit tombée. Une certitude, pensa Clotilde. Ils étaient seuls. Une autre, elle était inconsciente. De son plein gré, elle s'enfonçait dans le maquis pour répondre à un appel d'outre-tombe, en compagnie d'un ogre boiteux et taiseux, à qui elle avait offert sa confiance dès le premier regard. Le pèlerinage vers un lieu, un rituel, un dieu, dont elle ignorait tout, dura plus d'une heure encore. Ils progressaient maintenant à flanc de colline, dans des fourrés ras. Face à eux, lointaine, illuminée, la citadelle de Calvi semblait une île fortifiée uniquement reliée à la terre par le cordon de néon des barres du port. Ils marchèrent encore de longues minutes, tournèrent le dos à la mer et, après s'être à nouveau enfoncés dans la forêt, parvinrent à une petite clairière. Orsou éclaira un chemin tracé à travers un tapis de ciste, franchit quelques marches d'escalier taillées dans la pente et s'arrêta. Il braqua sa lampe devant lui. Le cœur de Clotilde battait à se rompre. Le faisceau lumineux du géant balayait une petite cabane de berger, posée au milieu de nulle part. Du moins, lui semblait-il. Peut-être Orsou l'avait-il fait tourner en rond dans la nuit pour la ramener tout près de son point de départ. La cabane semblait entretenue. Orsou dirigeait son spot comme pour faire apprécier l'entretien du bâtiment. Les pierres sèches parfaitement taillées, le toit de terre battu, les volets fermés. la porte de bois brut. Clotilde se retint de se précipiter vers la cabane en lui arrachant la torche des mains. Ou mieux encore, de la jeter par terre pour la briser et vérifier que sous la porte, entre les rainures des volets, un mince filet de lumière filtrait. Parce que quelqu'un habitait à l'intérieur. Parce que quelqu'un l'attendait. Elle, Palma, maman, tout près, elle le sentait. Orsou était son allié. Je ne pourrai pas t'en ouvrir la porte, mais peut-être les murs seront-ils assez fins pour que je puisse entendre ta voix. Devant la porte de la cabane, le terrain était plat et dégagé. Orsou, comme s'il avait lu dans ses pensées, se recula d'un pas et éteignit sa lampe. Clotilde continua de marcher, plissant les yeux pour percevoir un ray de lumière, s'attendant à voir la porte s'ouvrir. À quoi ressemblerait sa mère? Bizarrement, elle n'avait jamais calculé quel âge elle avait aujourd'hui. Elle aurait les cheveux gris, bien entendu, le visage ridé, le dos voûté. À moins que son fantôme n'ait pas vieilli, qu'elle soit toujours la femme superbe dont elle se souvenait, dont elle était jalouse, dont Natal était amoureux. Tu es devenue une très jolie femme. Ta fille aussi, plus belle encore peut-être. Elle me ressemble, je crois. Oui. Seule sa mère, seul son fantôme éternellement jeune pouvait avoir écrit à sa fille des mots aussi blessants. La porte allait s'ouvrir pourtant, et elles se jetteraient dans les bras l'une de l'autre. Clotilde avança. La lumière ne vint pas de la cabane face à elle, ni de la torche d'Orsou dans son dos. Elle l'attrapa de côté, pleine tempe, puis se planta entre ses deux yeux comme la mire d'un sniper. Des pas. Rapides, énervés, essoufflés. Le piétinement, le souffle, l'excitation. Tout dans l'arrivée de l'ombre trahissait la colère, à en casser les branches sur son passage, à en broyer les cailloux sous ses pieds. Pire que de la colère, de la haine. C'était une bête qui fonçait vers elle, une bête furieuse. C'était un piège. Orsou avait disparu. Il l'avait simplement conduite dans ce lieu pour quelques billets. Il ne restait à Clotilde que 30 mètres à franchir, mais elle n'atteindrait jamais la porte de la cabane de berger. La bête, d'un coup, fut face à elle. Clotilde la reconnut. Elle ne s'était pas trompée, ni sur la colère, ni sur la haine. Il était pourtant impossible de les avoir suivis dans le maquis. La bête les avait attendus ici. Comment avait-elle su? Peu importait désormais, elle était perdue.